pour développer, par exemple, la région d'Ottawa, oui, c'est un marché qui est bilingue, mais tout de même, on avait des clients qui parlent exclusivement anglais. Donc, c'était aller cogner à ces portes-là, c'est des portes que j'ai défoncées, ouais.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 159e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et également jeudi matin. Également, j'en profite aujourd'hui pour vous faire une toute nouvelle annonce. Le 3 mai dernier, on a officiellement lancé notre troisième balado hebdomadaire intitulé « Commerce Élite ». Après Hypercroissance et Social Selling, on a décidé de lancer un tout nouveau podcast qui sortira à chaque mardi parlant des tendances à suivre dans le commerce électronique. Des entretiens tactiques et stratégiques seront également au rendez-vous. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez le transformer en commerce élite, allez jeter un coup d'œil à notre tout nouveau balado ou encore transférez le podcast à votre chef du département marketing. L'expression « gravir les échelons d'une organisation » n'aura jamais pris autant de sens qu'avec l'entretien d'aujourd'hui. Pour le 159e épisode du podcast, j'ai la chance de m'entretenir avec une entrepreneure extraordinaire qui a su bâtir un empire à travers les années. Isabelle Côté, présidente et directrice générale de l'entreprise Coffrage Synergie, est avec nous aujourd'hui afin de nous expliquer comment elle a pu amener son entreprise à plus de 300 millions de chiffre d'affaires à l'année, tout en employant plus de 1500 collaborateurs. Isabelle, qui a rejoint l'organisation au milieu des années 2000, quand cette dernière ne faisait que quelques millions de revenus annuels, a su se tailler une place et ainsi prendre des nouvelles responsabilités année après année avant de devenir présidente en 2017. L'énergie de Isabelle est contagieuse, donc j'ai l'impression que l'épisode du jour est parfait pour vous aider à débuter la semaine. Sans plus attendre, ma discussion avec Isabelle Côté. Isabelle Côté, tu es la présidente de l'entreprise Coffrage Synergie, une organisation qui peut se targuer d'être le leader en coffrage au Québec ainsi qu'en Ontario. L'entreprise qui compte plus de 1500 employés va dépasser, encore une fois en 2022, la barre des 300 millions de chiffre d'affaires annuels. Isabelle Côté, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine, contente de te voir, contente de te parler. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que tu vas réussir à découvrir et à sortir de moi, parce que c'est ça qui est intéressant.
Exact, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de découvrir un petit peu la fabuleuse histoire de l'organisation que tu diriges depuis quelques années maintenant. Mais avant d'en discuter ensemble, peux-tu nous expliquer spécifiquement, Isabelle, qu'est-ce que Coffrage Synergie?
Oui, Coffrage Synergie, on est le leader en coffrage en Québec, Ontario. Tu l'as super bien dit. Ce qu'on fait, c'est notre spécialité, les structures de béton, donc du coffrage, des high-rise, comme on aime l'appeler, avec nos grands centres urbains, sont nos lieux de prédilection pour travailler. Donc, on possède nos grues, nos équipements de coffrage, mais surtout une équipe de 1500 passionnés qui font rouler la business d'une façon incroyable.
Puis, bon... Si on regarde un peu ton histoire, là, ça fait quasiment penser à des films des fois ou des livres entrepreneuriaux qu'on a la chance de lire année après année parce que tu as intégré l'entreprise, et tu me corrigeras si je me trompe, en tant que réceptionniste pour finalement devenir présidente et actionnaire majoritaire. Et tout ça a commencé, je crois bien, en 2006. Peux-tu nous dire un petit peu cette évolution, comment elle s'est faite à travers le temps? Si tu peux nous ramener à 2006 et nous parler de ces différents piliers de croissance que tu as eu dans l'entreprise.
Oui, bien 2006 a été une année où on était à l'époque à peu près 25 employés au total dans la société. Et que le poste de réceptionniste, c'était plutôt le poste de bras droit. Puis mon entrevue a été fort simple avec le fondateur. Ça a été « je sais pas ce que tu vas faire, je sais que j'ai besoin d'aide, tu peux-tu commencer lundi? » Ça a été mon entrevue. Ça a été, je te dis, très simple. On était le vendredi matin, 7h. J'avais rendez-vous là, 7h03. C'était la fin de l'entrevue, puis je commençais le lundi. Puis c'est vraiment dans une optique de bâtir chacun des échelons, de prendre l'information, créer. Tu sais, les échelons, je les ai pas gravis, je les ai construits. Et c'est de cette façon-là qu'on a développé tous les départements, que ce soit les départements d'estimation, de développement d'affaires. Moi, je suis vraiment une fille d'opération beaucoup plus que d'administration. Et développement d'affaires, ingénierie, chargée de projet, gestion de projet. Fait que c'est de ce côté-là que la business, elle a grandi avec mon support. Au fil des années, les besoins ont évolué de la business, puis c'est là qu'on a évolué vers d'autres sphères de l'entreprise. Mais 25 employés en 2006, aujourd'hui 1500, fait que ça a été une croissance assez effrénée. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. On aime ça, on aime les défis, on aime avancer, on aime rallier les gens qui sont autour de nous. Puis au même, à la même image que mon entrevue initiale, ben quand on sent qu'il y a quelqu'un qui est passionné, qui veut apprendre, évoluer, qui est prêt à mettre l'épaule à la roue, la main à la pâte, puis qui vraiment on sent qu'il y a quelque chose de solide derrière le profil d'un individu. Au-delà du CV, c'est ce qu'on va regarder, comme on a fait avec moi en 2006.
Ça, c'est du très, très bon leadership parce que tu m'en parlais dans un entretien préalable, Isabelle. Je pense que tu as eu la chance de travailler dès le départ, comme tu l'as mentionné, avec quelqu'un qui te fait confiance rapidement, quelqu'un qui n'a pas eu peur de te déléguer différentes tâches, de te déléguer différents piliers de croissance que tu pourrais littéralement construire, toi, de ton côté. Comment cette cohésion s'est installée entre toi et, je pense, le fondateur de l'époque? Je serais curieux d'en apprendre un petit peu plus sur votre cohésion de travail ensemble.
Écoute, c'est Marc Saumier est un homme qui a toujours su s'allier des personnes avec des talents et des compétences, des qualités complémentaires aux siennes. Fait que, tu sais, il a pas peur de dire, regarde, moi je sais pas, mais je vais trouver quelqu'un qui le sait. Puis, tu sais, au lieu de tenter de s'approprier la connaissance, c'est de s'entourer des personnes qui savent. Et ça, c'est un indicateur de croissance. T'es obligé d'avoir ça si tu veux connaître de la croissance. On est dans un podcast d'hyper croissance et si on veut tourner nos yeux vers la croissance, c'est correct. C'est un modèle d'affaires qui est juste différent de prendre l'information, de se l'approprier, de le digérer soi-même et de pouvoir en sortir quelque chose de super complet comme information. Par contre, si on veut parler de croissance, c'est excessivement important de s'allier avec ces talents-là autour de nous. Et donc, c'est de cette façon-là, c'est en multipliant autant le nombre de talents, doubler des profils différents, que là tu peux multiplier le temps au travers d'une entreprise parce que le fondateur, il y a encore juste quand même que tu veux y mettre toute l'énergie du monde, le nombre d'heures par semaine devient limité d'une manière ou d'une autre. Sinon, c'est là qu'on voit des entrepreneurs qui deviennent fous. Ça, c'est un autre meeting. Mais chose certaine, c'est que la façon de s'allier les talents, de s'entourer de ces personnes-là, c'est là que ça nous permet vraiment de faire croître une entreprise. Puis ça m'a beaucoup rejoint. Ça m'a beaucoup rejoint. Puis c'est comme ça qu'il m'a fait confiance à moi, mais à beaucoup d'autres individus avec des profils complémentaires aux miens. Et des surintendants, des gars de terrain, des gens avec juste, comme j'ai dit tantôt, un potentiel super fort de vouloir évoluer, vouloir apprendre. Et c'est cette complémentarité-là qui est la grande force. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, on s'allie avec des gens qui nous ressemblent, mais qu'on ne sait pas nécessairement les mêmes choses. Puis surtout, la capacité d'un entrepreneur à aller chercher de la croissance, c'est d'avoir des gens qui sont plus compétents que nous autour de nous. Si on veut juste du monde qui savent ce qu'on sait, ça va pas vite dans ce temps-là.
Non, effectivement, on va tout le temps être limité au maximum de ce qu'on connaît et on le sait très bien que la croissance est souvent reliée à des choses qu'on ne connaît pas et qu'on se doit d'aller trouver les réponses. Et force est d'admettre que le fondateur de l'organisation ici a été capable de comprendre cette réalité-là. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que cet apprentissage que tu as eu avec ton patron de l'époque, tu as essayé de la remettre en place avec tes collègues aujourd'hui? Est-ce que c'est de cette manière-là que tu opères dans ton rôle de leader?
Oui, tout à fait. C'est comme ça que j'opère. Je te dirais que la grosse différence dans mon leadership et le sien, c'est que lui le faisait de façon complètement inconsciente et qu'il ne nommait pas les choses. C'est un instinctif hallucinant, mais de là à organiser, structurer, mettre en place des protocoles, des processus, des façons de faire et mettre les mots à ses feelings, tu sais, à son plan d'entrepreneur. Ça, c'est mon domaine. Ça a toujours été mon domaine. Et la standardisation de l'entreprise et le modèle qu'on réussit à verbaliser parce qu'il y a certains types d'individus pour qui OK, t'as l'air de le savoir, on te suit. Mais il y a d'autres profils que pour eux, ça fait pas. T'sais, ça prend quelque chose d'un petit peu plus défini, d'un petit peu plus organisé. Et pour surtout s'assurer qu'on ait une belle standardisation entre nos trois régions, Montréal, Québec et Ottawa, et que ce soit un modèle qui soit reproductible, ben, il faut y amener une certaine structure. On laisse la place à l'individu, on laisse la place au pouvoir créateur des gens. Mais au contraire, quand on sent qu'il y a quelqu'un qui crée quelque chose, ben là, c'est là qu'on s'empresse de s'assurer que ce soit un modèle qui fonctionne pour tous et on le propage aux 1500 employés d'une façon très efficace et rapide dans nos processus de communication. Je te dirais que c'est peut-être j'ai repris vraiment cette façon de réfléchir et de travailler. Puis surtout, j'ai évolué moi-même là-dedans parce que c'était pas nécessairement, pas une fille aussi instinctive dans ce type de leadership-là, comme je t'ai dit tantôt. Fait que moi, je me le suis approprié, puis j'ai vu tellement la puissance que ça a pour élever les gens autour de nous et aller chercher l'adhésion d'une équipe complète. C'est extrêmement puissant, extrêmement puissant.
Puis bon, on a parlé brièvement d'évolution et on va en venir bientôt. On va parler de quand tu as pris la présidence en 2017. Mais avant ça, j'aimerais savoir, finalement, tu es rentré dans l'organisation comme bras droit, tu l'as mentionné. Mais à travers le temps, est-ce qu'il y a des rôles spécifiques qui se sont définis un petit peu plus de ton côté avant que tu deviennes présidente? Est-ce que tu as été peut-être vice-présidente de développement des affaires, en charge des ressources humaines? Je serais curieux de t'entendre sur ce sujet.
Ouais, ben à peu près la chose qu'on est le moins bon chez nous, c'est les titres. Fait que je suis pas si sûre de ce que j'ai fait au fil du temps, mais j'ai travaillé beaucoup au niveau du développement d'affaires, mettre en place les outils d'estimation, le bureau d'estimation aussi, partir de rien, créer des outils en Excel, parce que tout se faisait à la main. Tu sais, moi quand je suis rentrée là, on recevait une invitation soumissionnée par fax, tu sais. Puis ça fait pas si longtemps là, mais tu sais, l'industrie de la construction gagne à s'informatiser, à innover d'un point de vue technologique. Ça, on y reviendra certainement. Mais tu sais, de s'assurer, tu sais, c'était nos virages sur le fax qu'on recevait, puis on soumissionnait à mitaine en arrière. Mais ça fait juste 16 ans là, ça fait pas si longtemps que ça. Et on a fait évoluer toutes nos techniques, donc estimation, gestion de projet, fait que toute l'équipe de gestion de projet, éventuellement l'équipe d'ingénierie. Mais oui, effectivement, le développement d'affaires, donc j'ai développé, j'étais à peu près la seule dans le bureau qui parlait en anglais à l'époque. Notre petit village de la Valtrie qui comptait 12 000 âmes. Donc, on s'en arme encore ici, mais dans notre ville. Et pour développer, par exemple, la région d'Ottawa, oui, c'est un marché qui est bilingue, mais tout de même, on avait des clients qui parlent exclusivement anglais. Donc, c'était aller cogner à ces portes-là. C'est des portes que j'ai défoncées, ouais, tranquillement. Puis, on a la région de Québec aussi. Donc, développement d'affaires, rencontrer les gens, très opérationnel, ça a été dans mes rôles. Puis, je pense que le titre que j'ai porté le plus longtemps, si on peut dire, c'est le titre de directrice construction. Et être tout en charge de ce qui était les équipes terrain ou la répartition, s'assurer que les gens... Je faisais pas mal de terrain aussi. Je me promenais sur les chantiers pour m'assurer que l'onboarding était là, qu'on trouvait les meilleures pratiques et qu'on les propageait au sein de toute l'entreprise.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, je vous pose une question. Êtes-vous à la recherche des dernières tendances pour votre commerce en ligne? Êtes-vous à la recherche des ressources pour votre chef du département marketing afin de l'aider dans son travail? Si c'est le cas, sachez qu'on croit avoir la bonne réponse pour vous. On a la fierté aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau balado intitulé « Commerce Élite », un podcast qui, à chaque mardi, va présenter des entretiens marketing tactiques avec des acteurs influents du commerce électronique. Dans ces épisodes, on s'assure également de vous mettre à jour sur les nouveautés qui ont impacté l'industrie dans les dernières semaines. Donc après hypercroissance pour les entrepreneurs et social selling pour les acheteurs médias, nous voilà maintenant avec Commerce Élite, un podcast 100% orienté pour les équipes marketing des entreprises qui vendent en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à transférer le podcast à votre équipe interne. De retour à l'épisode en cours. Puis bon, 2017, tu deviens présidente de l'organisation. Est-ce que c'était clair à ce moment-là, depuis quelques années, que tu allais prendre la direction de l'organisation? Est-ce qu'il y avait un travail de passation qui avait commencé peut-être en 2014, en 2015? Ou finalement, encore une fois, connaissant le fondateur, ça a été fait assez instinctivement?
Ça s'est fait pas mal du jour au lendemain, je te dirais. avec une
J'espère que ça s'est pas fait le vendredi, puis le lundi, tu commençais, là.
Écoute, pas tellement loin de ça. Pas tellement loin de ça, mais tu sais, c'est comme je t'ai dit, malgré le fait qu'il mettait pas nécessairement les processus, les façons de faire, c'est un homme avec du flair, puis qu'il sait reconnaître les bonnes personnes, de remettre les bonnes personnes au bon endroit. Ça a toujours été une de ses très grandes forces. Donc, tu sais, la préparation, des fois, c'est bien, mais des fois, vaut mieux se lancer aussi. Puis on sera jamais prêt pour des nouveaux, totalement prêt pour des nouveaux défis. Ça, c'est comme les gens qui disent, ah, moi, j'attends d'avoir des enfants. c'est une nouvelle pour toi, tu seras jamais prêt, mon ami. Mais il y a un moment donné, faut que tu te lances. Hein, puis l'entrepreneuriat, c'est ça. T'sais, c'est ça l'entrepreneuriat. Il y a des moments où c'est... Moi, puis pour une fille de structure et d'organisation comme moi, oui, c'est bien de planifier. Oui, on réfléchit à la gestion de risque, on réfléchit au plan de relève, on réfléchit à beaucoup de choses. Mais il y a un moment où il faut juste se lancer. Se lancer dans l'aventure puis être prêt à accepter que ce ne sont pas des problèmes qui vont venir vers toi, mais des défis et des opportunités de grandir en tant qu'individu. Parce que rester au même endroit, c'est impossible de grandir. Tu sais, je veux dire, c'est m'a dit faire l'introspection puis se dire que qu'est-ce que je peux faire. Non, tu dois absolument faire face à des nouvelles situations pour réussir à évoluer dans ton rôle. Puis, tu vois, c'est un peu dans cette optique-là où la passation s'est faite assez rapidement. Fait que de la fille d'opération que j'étais, j'ai dû apprendre tous les rôles de plus administratifs, plus financiers, apprendre à négocier avec des partenaires financiers comme les banques, les assurances, tout le volet entrepreneurial, mais au sein d'une entreprise qu'on était, je me souviens même plus combien qu'on était à l'époque. Nous autres, ça se compte pas en chiffre d'affaires. Chez nous, ça se compte en employés, mais écoute, on devait être à peu près 500. Peut-être 400, je sais même plus, là, dans ces eaux-là, là, employés à l'époque quand j'ai pris la présidence. Et notre fondateur est allé s'occuper de la compagnie d'équipement qu'on avait aussi. Fait que donc, il y avait les équipements, tout ça, on faisait du coffrage. Et sa volonté était plus nécessairement d'être pris dans les opérations quotidiennes, mais il était déjà de moins en moins, mais c'était de gérer une compagnie de location d'équipement et d'aller développer ce marché-là. Bon, l'enjeu qu'il a eu, c'est que son seul et unique client à l'époque, qui était Coffrage Synergie, a pris un petit peu d'expansion. Alors, on a toujours loué 100% de son parc d'équipement ou à peu près. Fait que de sa volonté de vouloir développer une entreprise de location d'équipement, ben c'est ça sa priorité première, c'était de voir le succès de l'entreprise de coffrage qu'il avait fondée. Fait que c'est ça qu'il nous a laissé prendre la croissance et il n'a pas poussé de son côté pour aller louer à l'externe vers d'autres gens. Fait que là, quelques années plus tard, et là, aujourd'hui, janvier 2022, c'est cette année, on a, moi et les actionnaires minoritaires de Coffrage Synergie, on a racheté cette entreprise de location d'équipement et maintenant, on est complètement propriétaire de tout notre parc d'équipement. Parce qu'on avait aussi fait des acquisitions de notre côté parce qu'à un moment donné, la croissance était un petit peu rapide et fallait qu'on puisse tout supporter ça en équipe. Et c'était important pour nous d'être propriétaire de nos équipements, là, d'une bonne majorité de nos équipements, parce que ça nous permet d'avoir les outils à la pointe de la technologie. Les meilleures choses pour nous, les meilleurs outils pour nos équipes pour que tout le monde puisse se donner pleinement dans leur travail. Et donc, la formation de présidente, elle s'est faite sur le tas. Elle s'est faite sur le tas, mais je me plais à dire que on devrait certainement m'octroyer un diplôme universitaire MBA honorifique là parce que je sais pas, moi je l'ai fait trois fois dans la dernière 15 ans mon MBA puis j'ai appris beaucoup mais j'ai appris énormément aussi grâce à une structure coopérative super forte entre autres on a un CA qui est un conseil d'administration en bonne et due forme. Puis c'est rare pour des entreprises privées qui n'ont pas d'investisseurs publics ou qui n'ont pas d'obligations externes qu'on va se doter d'une structure aussi rigide que celle-là. Je dis rigide parce que nous, on s'est imposé une gouvernance avec trois membres externes sur le CA, dont la présidence est toujours assumée par un externe sur le board. Puis on leur a octroyé dans notre règlement de régie interne beaucoup de pouvoir aussi dans notre charte des administrateurs. Et on a deux internes. Fait que c'est deux internes, deux externes sur le board. Et ça, c'est tellement, tellement riche en challenge, tu sais. Puis je me souviendrai toujours, puis ma formation comme présidente, elle a commencé là. Le premier meeting que j'ai eu en tant que présidente avec mon board, ça faisait déjà un petit bout de temps. Moi, j'étais membre invité sur le board. Je n'étais même pas pleinement sur le board. Et on m'a posé la question, j'avais 35 ans, je viens de prendre la présidence, je suis enceinte de 7 mois. Dans mon premier. Et la question qu'il me pose, c'est « Isabelle, on aimerait ça que d'ici la prochaine rencontre, tu nous présentes ton plan de relève. » J'ai dit « Oui, mais je ne sais même pas encore ce que moi, je suis supposée faire. » Il faut déjà que tu me dises « C'est qui ma relève? » Mais tu sais quoi? C'était une des plus importantes et intelligentes questions qu'on m'a jamais posées de toute ma vie. Fait que j'ai réfléchi beaucoup à ça, puis la croissance de synergie passe énormément par là, par s'assurer, puis ça m'a permis de remettre des mots, vraiment, des mots, une structure, puis d'expliquer aux gens autour de moi ce feeling pour le transmettre en plus théorique. Et chaque personne devrait être responsable de sa propre relève, et ça à tout moment de sa carrière. Quand tu as 22 ans, que ton rôle et ta volonté, c'est de croître dans l'entreprise, pourquoi est-ce que c'est la responsabilité des ressources humaines ou de ton supérieur immédiat de s'occuper de ta relève? C'est ta responsabilité. Et que l'imputabilité des individus à s'assurer d'être prêt pour la prochaine étape, s'assurer d'être prêt pour ce qui s'en vient, montre-la à quelqu'un d'autre ta job, ça va nous faire plaisir de te donner d'autres responsabilités. Ça devrait marcher dans ce sens-là. Tu peux pas laisser un siège vide derrière toi. C'est complètement irresponsable de le faire. Il faut que quelqu'un soit prêt à prendre le relais. La différence avec ce que moi j'ai vécu, c'est qu'on le communique plus clairement aujourd'hui. On s'assure que les gens comprennent ce qui s'en vient, que c'est ça qu'ils peuvent aspirer et que leur propre croissance professionnelle va passer par leur responsabilité. Puis c'est vraiment riche ça, ce que ça fait. Puis tu sais que t'as 22 ans, 30 ans, 50 ans, tout le monde devrait penser comme ça.
Ah, c'est fascinant. Puis je suis curieux d'ailleurs, parlant de ton conseil d'administration, est-ce que vous avez choisi des gens pour le conseil qui étaient déjà dans l'industrie, on pourrait dire, de la construction? Vous avez pris des gens complètement de l'externe pour avoir un œil là, nouveau sur comment vous gérez votre administration, vos opérations?
Écoute, un petit mix des deux. On est comme à la version 3.0 du conseil d'administration parce que ça va faire... Écoute, apparemment, ça fait presque 10-11 ans qu'on a le conseil d'administration déjà avec nous. Fait que, écoute, initialement, des profils, on avait avocats, ingénieurs et comptables. Fait que, tu sais, des profils qui nous permettaient de créer une bonne gouvernance. Parce que la première chose à faire, c'était celle-là. Tu sais, au-delà d'avoir des contacts, au-delà de... Tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un CA, c'est là pour t'aider à ton développement d'affaires. C'est un outil qui t'amène vers ça, mais c'est un outil qui réfléchit.
C'est du collatéral.
C'est du collatéral positif. Là, moi, je l'appelle comme ça, exactement. C'est un réseau de contacts en lien avec la construction, mais c'est important de se faire challenger par des gens qui pensent pas comme toi. Tu sais, moi, je dis souvent, si je veux quelqu'un qui pense comme moi, ben, je vais m'acheter un miroir. C'est beaucoup plus facile. C'est moins destination, tu sais. Et c'est pas ce que je recherche. J'ai besoin de gens qui me challenge, qui m'amènent à un autre niveau, qui me posent des questions que je veux pas entendre. Tu sais, c'est ça que j'ai besoin, là, tu sais, d'un conseil d'administration. Fait qu'on est allé, fait que donc, au fil des années, c'était la composition du conseil. Là, on vient de renouveler des sages. Donc, notre ingénieur a quitté. On a un gars extraordinaire qui était dans la construction, qui était président de TCI, Transelect Commune, pendant des années. Donc, une super boîte de construction qui est complémentaire. C'est pas ce qu'on fait du tout, là, dans le coffrage, mais c'est des gens qui ont piloté une magnifique entreprise, montée à de mémoire. 3-4 000 employés. Donc, c'est ça. C'est quelque chose de super intéressant. Fait qu'avec des connaissances un peu peut-être plus près des nôtres, mais qui ont connu la gestion d'une plus grande entreprise dans différentes situations. Fait que c'est aujourd'hui où on est. Mais c'est pas essentiel pour avoir des bons membres de CA. Il n'est pas essentiel que ce soit directement lié à notre travail. Puis au contraire, c'est là que peut tomber des conflits opérationnels. Puis tu veux pas que ton CA soit au niveau opérationnel, tu veux que ton CA soit à un niveau de gouvernance et de création de valeur beaucoup plus haut. Et moi, j'adore dire, eux autres sont à 60 000 pieds, là. Puis moi, je suis à 35, il faut que je sois, puis il faut m'assurer. Et c'est là que je veux qu'ils me ramènent tout le temps dans leurs questions et leur façon d'opérer.
Et bon, ils t'ont posé cette question assez intéressante-là. Puis bon, en 2017, toi... C'est quoi les questions que tu te poses quand tu prends la présidence de l'entreprise? Est-ce que tu te fais un plan stratégique? Est-ce que tu dois livrer un plan stratégique peut-être même au conseil d'administration? Je serais curieux de savoir quels sont les questionnements, les raisonnements que tu as à ce moment et par la suite, comment tu le communiques à tes collègues du conseil?
Ouais, ben la communication par les collègues du conseil, c'est une chose, c'est un des aspects, mais c'est aussi tout l'aspect plan de communication sur toutes les parties prenantes. C'est pas juste puis ça c'est des choses qui m'ont aidé énormément à réfléchir parce que le présenter au CA, c'est important aussi d'avoir un conseil d'administration qui est là pour toi puis qui respecte. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas une société publique, fait que là les reporting en bonne et due forme qu'on en PDF qu'il faut qu'ils soient joints sur le site web pour les 1,2 millions d'actionnaires et notaires. C'est pas ça, là, c'est pas une société publique, là, t'sais. Fait qu'on reste dans le privé. Fait que c'est beaucoup de discussions, il y a beaucoup de one-on-one, il y a beaucoup de recherches stratégiques, mais qui sont plus dans le brainstorming que dans l'application complète. Mais oui, j'ai quand même créé ce que j'adore appeler mon guide synergie avec toutes les informations complètes de l'entreprise, de l'historique à la programmation, d'où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi notre vision, notre culture. Puis ça, c'est un guide tellement riche pour la préparation de présentation pour tous mes départements. Fait que ça, je me fais un devoir de conserver toujours à jour ce genre de documentation-là. Backlog, pipeline, où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi la stratégie? C'est quoi les nouveautés? Ça intègre notre programme ESG, ça intègre notre façon, nos vision, valeur, mission d'entreprise. Puis, c'est super important, ça, de mettre par écrit ce genre d'idée-là, parce que une pensée peut être floue. Mais un écrit, c'est impossible. Tu peux pas écrire flou. Tu sais, c'est obligé d'asseoir ta réflexion, de synthétiser le message. Et ça, je le répète à tous, assurez-vous toujours de que le message soit concis, il soit simple. Puis peu importe notre auditoire, il faut pas que ça soit long. Là. À un moment donné, si t'es pas capable de t'en souvenir, puis si c'est un pitch plus long qu'une ride d'ascenseur, c'est trop long. Fait que la vision stratégique, ben oui, on te ramène en 2017, comme tu me le demandais. Bon, là, en 2022, c'est même facile pour moi de te l'expliquer. J'ai fait beaucoup de chemin dans les 6 dernières années, mais c'est l'exercice que j'ai fait au travers des questions, au travers des fois des frustrations. Dis, voyons, veux-tu même dire pourquoi ils perdent leur temps à me parler de ça, tu sais, le plan de relève? Après ça, ça a été les mêmes questions pour la gestion de risque, l'analyse des situations, l'analyse de l'actualité, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. Et qu'au fil du temps, bon, ben, tout ça, ça s'est raffiné, mais le plus important, ça a été comment qu'on le communique et ça, j'arrive à vous communiquer, parler, expliquer, prendre le temps de divulguer toutes ces informations-là. Fait que cette passation-là, en 2017, on l'a fait au travers un événement familial où on a réuni tous les gens de notre entreprise avec leur famille. Et, on leur a fait l'annonce qu'on changeait, qu'il y avait un switch, qu'il y avait une relève qui prenait la place, littéralement, parce que c'était ça. C'était la relève qui entrait dans les rangs. Ça s'est bien fait. Ça a été smooth parce qu'on a pris le temps d'expliquer, on a pris le temps d'être là pour eux, on a pris le temps d'être one-on-one, tu sais, quasiment. Là. Et j'ai fait beaucoup de chantiers aussi dans les mois qui ont suivi pour s'assurer que les gens voyaient. Puis tu sais, ultimement, il n'y avait pas tant grand-chose qui avait changé. Là. Tu sais, c'est un genre de management buyout finalement, tout le protocole, tout ce qui s'est mis en place. Et ça s'est bien fait. On a piloté pendant un an sous la présidence qui était menée par le comité de direction, comme étaient 4 membres à l'époque. J'y tenais aussi, là, tu sais, je veux dire, avant de dire OK, ouais, vraiment, je lève la main pour être présidente. Puis on emboîte le rôle comme ça. On a voulu que ça se fasse au travail de le comité de direction, puis ça a été une bonne chose. Et naturellement, on voyait que tu sais, mon leadership, ma connaissance générale de l'entreprise, etc., faisait en sorte que j'étais tout indiquée pour prendre le rôle. Et c'est d'ailleurs la demande du CA quand on a dit là, il va falloir que vous choisissiez. T'sais. Qu'est-ce qu'on fait? Et entre les autres parties prenantes aussi autour de nous qui disaient, tu sais, j'ai fine votre comité de direction, mais c'est qui l'est, tu sais, puis les gens veulent le savoir. Fait que ça a été la transition, la façon qu'on le fait pour s'assurer que ce soit le plus smooth possible. Et je dirais pas jusqu'à dire que moi j'avais un petit feeling de sentiment d'imposteur parce que c'est des grosses chaussures là, prendre les souliers d'un fondateur d'une belle entreprise comme celle-là. Il fallait que ça soit fait de la bonne façon. Je voulais m'assurer que la transition fonctionne bien. Et super bien passé.
Ben. Et là, faut le mentionner à notre audience aujourd'hui. Donc, tu prends la présidence en 2017, Isabelle. Vous faites à ce moment-là 70 millions de chiffre d'affaires. Je l'ai mentionné en introduction du podcast. Vous allez atteindre encore une fois, peut-être même plus que ça, cette année, 300 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est simple, là. Mathématiquement, vous avez fait plus que x4 depuis que tu as pris la présidence il y a à peu près 5 ans de ça. OK? Je comprends l'idée d'écrire le plan sur papier, mais là, il faut que tu nous parles un peu comment vous avez mis tout ça en place, la croissance. Parce que faire x4 pour une organisation qui a déjà autant de parts de marché, j'imagine que tu avais un plan spécifique parce que là, c'est une très grande croissance que vous avez vécue en seulement 5 ans.
Ouais, ben c'est sûr que techniquement, je pourrais te parler que notre volonté était de bien s'installer. On était déjà dans dans 3 régions géographiques. À l'époque, on était Montréal, Ottawa et on débutait Québec à l'époque. Mais d'abord et avant tout, je vais être obligée de te dire que notre objectif, ça n'a jamais été la croissance. Tu l'as dit comme tantôt, l'objectif, c'est un avantage collatéral. Je ne sais même pas comment dire, conséquence, avantage. C'est comme la profitabilité en est une, comme La pérennité en est une, mais tu sais, c'est quoi notre objectif premier, puis ça a toujours été, c'est d'assurer un travail de qualité à temps plein à l'ensemble de nos employés. Et ça, là, ça change tout. Notre vision d'entreprise, notre culture d'entreprise est tournée vers les gens, vers les humains, vers les passionnés, vers l'équipe, vers le fun qu'on a à le faire à tous les jours. Puis ça, c'est une espèce de petit modèle qui est hyper contagieux. Les gens veulent adhérer à quelque chose qui va être plus grand qu'eux, qui va être agréable, qui va avoir du bonheur. Puis tu sais, on en parle beaucoup aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression d'être très redondante dans mon discours, mais ça fait 22 ans qu'on le fait. Ça fait 22 ans qu'on prend plaisir à s'assurer que chaque personne soit sur son X, soit au bon endroit, qu'il soit heureux dans ce qu'il fait. On n'hésite pas à re-questionner, à défoncer des barrières. Écoute, j'ai des profils de gens que tu dis, c'est sûr que des RH nous diraient, ça va pas là, là, tu peux pas mettre ça là, puis c'est des stars dans leur domaine, tu sais. Des directrices de projet qui étaient, la première directrice de projet que j'ai embauchée, c'était une amie d'un ami qui était en congé de maternité, pas étudiée dans la construction, pas en tout, t'es directrice de projet aujourd'hui, une fille extraordinaire, puis pourtant, si tu regardes n'importe quelle grande entreprise, ils m'ont dit, si t'as pas un ingénieur dans ce poste-là, il est pas à bonne place. Je suis pas ingénieure. Il y a plein de gens qui ne le sont pas. C'est des caractéristiques. Genre, on a des ingénieurs. Tu sais, c'est pas ça. C'est pas qu'on est fermé. Ah, c'est qu'on est sensible à s'assurer que les gens soient bien au quotidien. Et nous autres, ce qu'on cherche à faire, c'est que on voulait plus vivre la saisonnalité de la construction et l'incertitude de dire, j'ai-tu encore une job lundi? Parce que c'était perçu un peu comme des travaux un peu à contrat, je vais dire comme ça, là. Et ouais, mais après ce job-là, je fais quoi? Je vais où? Ça, inquiète-toi pas avec ça. On s'en occupe. Investis-toi dans la grande famille Synergie. Rentre à tous les matins pour donner ton maximum. On va t'aider, on va te fixer des objectifs, on va y parvenir. Puis ça, lundi, on s'en occupe. C'est assez différent, ça. Parce que autant que l'hiver, d'habitude, en construction, ça baisse, le lot d'ouvrage, ça baisse. Et ça, à l'année, depuis toujours, on a pensé comme ça, mais ça crée une entreprise complètement différente de penser ainsi.
Puis, parlant de vos employés, je pense que vous avez bâti un programme de formation assez exceptionnel, très, très complet. On s'entend, si on passe de 25 collaborateurs en 2006 à 1500 collaborateurs en 2022, à un certain point, on risque de prendre des gens peut-être plus juniors puis les former à travers le temps. Peux-tu nous parler de ce programme-là qui a l'air d'être assez bien ancré là, dans votre processus opérationnel?
Ouais, on a différentes mesures à différents niveaux pour s'assurer que tout le monde soit bien onboardé. On a notre programme d'accueil initial. Premièrement, notre programme d'accueil est très, 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 très complet. On en montre plus que pas assez. On s'assure que les gens comprennent tous les services qu'il y a chez Synergie, toute la complémentarité des services aussi. Fait qu'on va au-delà du poste de la personne. On s'assure que la personne soit vraiment consciente de quels sont les services Synergie. Premièrement, ça, c'est l'accueil initial. Ensuite, en chantier, parce que, mettons, là, j'achemine l'accueil, tu sais, j'ai bien les volets, mais si on parle du chantier, puis ça, c'est ce qui nous différencie beaucoup. On a notre programme Coach Ton Partner qui permet d'avoir un 4 semaines où tu es vraiment collé avec une personne qui t'amène à un autre niveau. Fait que la learning curve, elle est très rapide. Très, très rapide. Que tu sois nouveau dans l'industrie, que ce soit 10 ans que tu es dans la construction, dans des domaines connexes ou différents, ou quelques années dans le coffrage, cette étape-là, elle est essentielle et obligatoire chez Synergie. Puis ça crée quelque chose de très fort d'un point de vue sentiment d'appartenance, parce que ça te fait une personne avec qui tu te rallies rapidement, qui est pas nécessairement... Tu sais, on donne trop de responsabilités à nos casques blancs de l'industrie de la construction, nos surintendants, par exemple. Mais à un moment donné, il y a une limite à pouvoir supporter une quantité de responsabilités. Fait qu'on a dit quoi? Au même titre que notre fondateur le fait à l'époque, il s'est allié autour de lui des personnes qui étaient complémentaires et qui permettaient d'aller faire plus dans la même semaine. Fait que ce programme-là de Coach en Partner, il est extraordinaire là-dessus. Et on a aussi des mentors en chantier. Fait qu'un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là vraiment tout au long de la job, qui est une personne ressource, s'assurer que les gens sont bien. C'est un point de contact, ressources humaines, chantier, je vais dire ça comme ça, mais c'est assez unique à Synergie. Ben, je connais pas personne qui fait ça de autre que nous autres, là, mais qui permet d'avoir un point de ralliement qui est encore là, pas notre surintendant qui est souvent très occupé. C'est très occupé, des grosses responsabilités, il y a les dates de coulée, il y a le client à gérer, il y a beaucoup de choses déjà. Avec le mentor, c'est une espèce de buffer entre les deux qui permet d'aller permettre aux gens d'aller se confier aussi quand il y a quelque chose qui peut peut-être... Puis des fois, c'est impressionnant, le surintendant. Ça parle fort, ça parle vite, puis ça m'emmène large. Okay? Ah, ouais, ça prend parfois l'état entre les deux. Puis ce qui est surtout très intéressant, c'est que le passage de mentor, ça fait des gens qui sont très tournés vers l'humain, qui sont à l'écoute, qui sont conscients des différents types de communicateurs. Donc, on donne beaucoup de formation sur le savoir-être de nos employés. Contrairement, le savoir technique, là, ça, oui, on a un très gros volet technique ici pour passer les bonnes façons de faire, de procéder. Mais le technique, c'est le bout facile à transmettre dans une entreprise. Le savoir-être, la culture d'entreprise, ça, c'est ce qu'on n'apprend pas tant que ça. T'sais. Puis que ce soit dans n'importe quel programme universitaire, à part si tu es étudiant en RH, du savoir-être, il n'y en a pas beaucoup au programme scolaire. Et ça, à tous les niveaux. Fait que c'est pas nécessairement de la façon qu'on a été élevé non plus. Puis ça, il faut qu'on gagne énormément en tant que société à s'assurer qu'il y ait un peu plus de formation sur tous ces aspects-là. Donc, le mentor, un passage obligé pour nos nouveaux casques blancs maintenant, fait que ça leur permet de développer leurs skills de gestionnaire plus tôt, plus calmement. À un moment de leur carrière, ils ont beaucoup moins de responsabilités sur les épaules. Fait que ça devient ensuite des acquis, ça devient des comportements naturels pour eux d'être à l'écoute, d'être plus sensible au comportement des gens. Ça, ben j'aime beaucoup introduire ça dans l'industrie de la construction. Ben, c'est, toutes les industries en ont besoin, mais c'était peut-être plus flagrant dans notre domaine. Fait qu'on passe par là, on a un programme de formation. On a un programme de formation complet sous forme de vidéo. On adore tourner des petites capsules vidéo qu'on transmet au travers de nos employés, au travers de l'application Synergie. Et ça, c'est un véhicule de communication super efficace aussi, le cellulaire de nos employés.
Fait que vous avez bâti votre propre application pour vos collaborateurs.
Oui, on a bâti ça. Tout ça à l'interne, on a un département d'informatique très élaboré ici chez Synergie, nos développeurs. On aime introduire les technologies au service de l'humain. Donc, on a réfléchi aux besoins de tous nos collaborateurs. On s'est dit comment qu'on peut faire pour leur parler au travers des technologies pour que ça leur parle et non pas forcer des façons de faire qui ne sont pas les leurs. Parce que c'est correct d'apprendre, mais en même temps, c'est important de comprendre le comportement naturel évolutif, t'sais, puis de l'utiliser pour que ça leur serve en retour. Donc, on n'a rien trouvé sur le marché qui correspondait à nos besoins. Fait qu'on s'est dit, ben, on va le créer, on va l'amener à un autre niveau. Puis c'est il y a à peu près 5 ans que j'ai rêvé à ça. Puis je me souviens encore d'avoir dit ça à ma gang. Je dis, je m'en vais autour de la table de conférence. Puis je leur dis, tiens, hey, vous savez pas quoi? Je dis, un jour, là, on va avoir notre propre application Synergie. Je dis, moi, il va avoir un beau carré S, là, comme ça, là, avec les petits coins ronds, là, comme l'application, le petit applicatif sur mon téléphone intelligent. Puis je dis, un jour, on va l'avoir. Il m'a regardé, il dit, on va faire quoi avec ces Isabelle? Il dit, tu rêves en couleur, je dis, non. Je vous le dis, on va l'avoir. Puis aujourd'hui, écoute, 50 ans, ça a mûri une autre année. Ça nous a pris une année à le développer. C'est on depuis à peu près 3 ans. Et c'est vraiment puissant. Comme outil, en continuant à développer des nouvelles features, on va prendre les commentaires des utilisateurs, puis on propulse ça à un autre niveau.
Et j'aimerais revenir au volet de formation. Donc, on est dans un contexte sensiblement de plein emploi présentement au Québec. Vous êtes également en Ontario. C'est de plus en plus difficile de trouver de la bonne main d'œuvre. À quel point votre approche concernant la formation, concernant les RH, tu sens que ça vous donne un avantage quand vous avez à recruter parce que vous êtes dans la business du recrutement constamment, vous autres, là?
Mm-hmm. Oui, effectivement. Mais écoute, j'aime dire que on n'a pas d'enjeu de recrutement chez Synergie. Et on a créé, je pense qu'on a créé quelque chose de très intéressant, tu sais, pour les employés. Les gens comprennent pas toujours. On a tellement de candidatures spontanées, là. On a tellement de gens qui viennent voir, tu pourrais, je sais pas ce que je pourrais faire, mais je veux en faire partie. T'sais, je dis, l'aventure a l'air intéressante, passionnante, vous laissez de la place aux gens, aux humains. Puis, tu sais, c'est dans cette époque où les gens changent d'entreprise pour une surenchère financière, Je te dirais qu'on, oui, on est compétitif chez Synergie au niveau des salaires, mais c'est pas ce qui nous donne un edge. On n'a pas besoin d'aller là. On va dans l'environnement de travail, on est dans la qualité de ce qu'on offre aux gens comme évolution potentielle au niveau de leur carrière, on est dans le bien-être, on est le développement de soi, puis tu sais, c'est tellement stimulant un environnement de travail où tu peux te développer, là, tu sais, puis la majorité des employeurs vont, on commence à s'en rendre de plus en plus compte, mais ça reste quelque chose de, il faut que ça devienne une culture d'entreprise, t'sais, où tu vas aller, qu'est-ce qui te tente de faire, fait que c'est au travers, oui, parfois on cherche des postes un petit peu plus spécifiques, on va aller présenter une offre d'emploi, mais les gens adhèrent rapidement à notre modèle, puis c'est ce que j'entends le plus souvent de la part des nouveaux employés. C'est moi, ce que je regrette le plus, c'est de pas être venu avant.
Ah ouais, hein?
C'est ce que j'entends le plus souvent. Donc, je me dis mission accomplie. Puis quand je vois qu'en plus, c'est que les gens réfèrent, j'ai encore vu un post sur l'application Synergie Seigneur avant-hier, une famille de Québec. Le fils est venu, puis a amené, un an plus tard, il a amené son père, puis peu de temps après, il a amené son autre fils. Fait que là, ils sont les trois. En usine puis commissionnaire, on a trois générations, et dont une génération que c'est le couple ici qui sont là. Fait que, tu sais, des exemples comme ça, moi, quand je vois que les gens réfèrent leur propre famille...
Ben oui, c'est sûr.
De mes collègues au recevable qui a référé sa mère vient de rentrer chez nous aussi à la comptabilité. Tu sais, moi, là, ça, c'est mission accomplie. Puis, tu sais, c'est là que je me rends compte à quel point il est possible de maintenir, même dans une équipe de 1500 employés, un sentiment d'appartenance extrêmement fort, le feeling de la famille Synergie. Tu sais, c'est pas juste des mots de marketing, là. C'est quelque chose qu'on peut vivre à chacun des tournants d'un bureau, chacun des tournants d'un chantier. Comme souvent des gens me disent, c'est-tu, mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger, Isabelle, à vos employés?
Ben oui. Mais Isabelle, c'est assez exceptionnel tout de même. Puis ça aussi, je veux en parler un peu, avoir ton opinion par rapport à ça. Mais être une femme d'affaires dans un milieu qui, historiquement, est réputé pour être peut-être davantage un milieu de gars, mm-hmm. et de faire croître une organisation autant rapidement, comment tu te sens à travers ça? Est-ce que tu as senti à travers les années, peut-être que ça allait être plus compliqué, que tu allais avoir des bâtons dans les roues? Je serais curieux de t'entendre sur ce sujet-là.
Moi, il y a en 2006, quand j'ai été embauchée par une personne qui ne faisait aucune distinction avec le fait que j'étais une fille. Ça changeait rien dans sa vie. Il voulait quelqu'un qui pouvait l'aider à grandir. J'étais une fille, tu sais, c'est tout. Mais j'ai grandi dans cet environnement-là ici, au même titre que j'ai grandi dans une famille qui pensait comme ça. Mes parents, moi, ce qu'on a eu le plus en abondance dans mon quotidien, c'est une tonne d'amour puis de confiance en soi. T'sais. Go, t'es capable. Je sais que tu vas y arriver. T'sais. Puis avec ça, puis j'ai une grande sœur qui, elle aussi, a carburé à ça toute sa vie. T'sais. Fait que je pense qu'il y a une des questions qu'on se pose un petit peu trop souvent. Puis t'sais, c'est vraiment une opinion très personnelle, puis c'est loin d'être scientifique, mais t'sais, des fois, à un moment donné, faudrait peut-être arrêter d'en parler qu'on est des filles dans la construction, puis juste le faire. T'sais, j'ai l'impression qu'on va régler concrètement cet enjeu-là quand on va arrêter d'en parler. C'est drôle à dire, là. Je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti. J'ai pas filé. Je me suis pas questionnée. J'ai pas eu peur. J'ai pas. Pourquoi? Parce que c'est juste l'humain, la complémentarité, la passion, l'énergie. Toutes les personnes, les nouvelles candidats qui se présentent à la porte, notre équipe, c'est tout de même, c'est comme ça qu'on pense aussi. Fait que même si on réussit, même si ça reste un métier extrêmement physique, le métier de coffreur, ça reste qu'on a des filles en chantier qui sont meilleures qu'un paquet de gars. Fait que le jour où on va justement arrêter de se dire « Oh, mais je peux-tu? Mais je peux pas? » Puis ça, c'est peut-être typiquement féminin, si tu veux mon avis. Là. Oh, mais est-ce que je suis capable?
Je pense qu'on a besoin, de gens comme toi. C'est ça la beauté de tout ça, c'est de montrer « Écoute, regarde là, ce que je suis en train de faire. Arrête de te poser des questions, là. »
Ouais, ben tu sais, l'espèce de... Je l'ai dit plus tôt, tu sais, la volonté d'essayer de tout planifier, tout organiser avant même d'avoir emboîté le pas, à un moment donné, il faut lâcher. C'est go! Go! Moi, comme je dis souvent aux gens, il y a des gens qui me posent la question, ils disent, ouais, mais arrêtez de me poser la question pourquoi. La question, c'est pourquoi pas? Go, tu sais, faites-le, on verra. Puis tu sais, est-ce que ça veut dire que je me suis trompée? Ben oui. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait des erreurs? Ah, j'en ai fait. Mais par contre, qui ne risque rien dans rien, tu sais, ça vient ensemble. C'est super simple. C'est un principe de base. Puis Quand on arrive à être humble dans nos erreurs, quand on arrive à avouer nos erreurs, puis de pas avoir peur de se tromper, tu sais, je le disais d'emblée, moi, ce que j'aime le plus par-dessus tout, c'est parler à ma gang. On a notre nouveau congrès Synergie qui s'en vient en décembre. C'est un événement qu'on a toujours eu l'habitude de faire annuellement, que je me fais un plaisir hallucinant de hoster moi-même. C'est moi qui le sustente toute la journée avec la gang, qui fait le lien entre les conférenciers, entre les présentations, puis la gang. Tu sais, il y a des gens qui me posent la question, des fois, ils disent, comment tu fais pour te préparer, Isabelle? Je me prépare pas, je me lance. Tu sais, j'ai dit, je organisais, on a un horaire, mais à un moment donné, juste de filer, de pas avoir peur, de laisser aller qui on est réellement, puis on n'est pas obligé d'être tous aussi extravertis, mais on a toutes nos couleurs, on a toutes nos façons de faire. Et moi, j'adore aussi travailler avec les ce que j'appelle des imperfections connu et accepté. Et on a tout notre côté. Il y a personne de parfait, là. Il y a personne de parfait, puis on a toutes nos façons d'être, puis c'est super important de reconnaître ça, puis d'en rire au pire, puis d'avancer et d'être transparent et unique au travers chacune de nos interventions avec l'équipe.
Et à quoi ressemble le futur de Coffrage Synergie pour les 12, 24, 36 prochains mois?
Ah, il y a beaucoup d'idées qui viennent en tête. On est, je peux pas te dire quand même, là, ça viendra bien, mais il y a beaucoup en technologie. On s'en va, on a fait beaucoup, de choses qui vont être bonnes pour l'industrie. On a fait, parce que tu sais, au-delà de notre propre volonté à être meilleur, ce qu'on aime d'abord et avant tout, puis c'est la raison aussi pour laquelle j'adore participer à des podcasts, j'adore parler de ce qu'on fait, parce que c'est super important de communiquer ce qu'on fait chez nous à l'interne, mais on pourra jamais être meilleur que notre industrie à ma main. Il faut qu'on grandisse ensemble, en équipe. Puis notre équipe, c'est pas juste les rouges, là. C'est toute l'industrie de la construction au grand complet. Puis au-delà de ça, c'est même nos bonnes pratiques de gestion qu'on veut propager au travers de toute notre société. Puis je pense aussi que c'est quand on en parle de nos pratiques qu'on réussit à trouver les meilleures idées qui se font partout. Puis ça, c'est dans l'échange qu'on retrouve les meilleures idées de devenir une meilleure société ultimement. Fait que ce qui s'en vient dans les prochaines années pour Synergie, on va continuer à faire ce qu'on fait de mieux, servir nos clients, qu'on soit là pour eux, qu'on soit les leaders sur leur chantier. Et écoute, c'est à peu près 70-75 projets de front à la fois qu'on roule. On peut en faire encore. Il y en aura aussi longtemps. Cette croissance-là va passer par la volonté des gens de vouloir adhérer à cette idée-là, à ce modèle-là, et à faire croître avec nous cette magnifique et grande famille.
Question plus personnelle maintenant, Isabelle. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Est-ce que tu lis un petit peu certains livres d'affaires?
Des livres d'affaires, j'en lis pas tant que ça, mais il y en a un qui est extraordinaire. Mon livre de chevet, c'est la Bible. Je lis la Bible de façon très assidue et c'est ce qui est le plus inspirant. Et ce qui est hallucinant, comment qu'on revoit au travers... Bon, j'ai d'autres lectures au travers de ça, mais les bonnes pratiques d'affaires sont puisées dans celui-là. J'aime autant l'original.
Oh, incroyable! C'est la première fois qu'on me donne cette réponse-là. J'adore. Podcast, en écoutes-tu un peu?
Oui, j'en écoute un peu au travers le temps qu'il me reste, mais... J'adore surtout participer à différentes rencontres au travers mon équipe. Moi, je suis une fille qui... je suis pas dans la micro-gestion du tout. Je suis pas dans l'opérationnel quotidien. C'est pas ce que j'ai besoin de faire, mais j'adore aller m'immiscer de ce qui se passe à l'interne. Fait que je me fais le petit... Quand j'ai envie d'écouter quelque chose, d'écouter qu'est-ce qui se passe, je m'immisce dans une rencontre d'équipe. Puis je trouve ça super riche et puissant comme... source de motivation, d'idées, de dire « what's the next step? » Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore une fois? Parce que ça, il en restera toujours. Puis c'est beau de voir à quel point il y a des idées de génie dans notre propre entreprise. Il faut juste trouver une façon de les encadrer, les supporter et de les faire fleurir au travers les moyens qu'on a aujourd'hui.
Bien sûr. Et à quoi ressemble la routine avant, pendant et après le travail d'Isabelle?
T'as dit qu'il est au gym le matin à 5h. J'adore le gym. Je m'entraîne beaucoup. Je passe un temps avec mes enfants après, avant l'école, avant la garderie. Ensuite, bureau, tôt. Souvent déjeuner, dîner au bureau. On a la chance d'avoir un magnifique bistrot ici avec des chefs qui nous concoquent des plats extraordinaires. Qui d'ailleurs, c'est une feature qui était là. Écoute, la cuisine, elle a ouvert il y a 18 ans, je pense, 19 ans. On faisait le déjeuner à partir de 3h30 à tous nos employés. Aujourd'hui, c'est toujours là. Et d'ailleurs, notre première chef est toujours avec nous aujourd'hui. C'est elle qui m'a fait ma bonne omelette aux légumes ce matin. Et donc, je mange au bureau. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est riche en temps aussi. Et ça me permet de m'asseoir avec tous les départements de façon un peu informelle. Fait que ça, c'est génial. Merci, dans un sens, si je peux le dire, à la COVID, de nous avoir apporté cette flexibilité d'horaire, d'organisation, de rapidité, de compréhension de ça fonctionne quand même avec un modèle hybride de télétravail. Parce que moi, j'étais plutôt du genre avant à ouvrir et fermer les lumières du bureau. Et que là, aujourd'hui, on comprend qu'on peut travailler différemment. Ça aussi, c'est riche, riche d'informations.
Ben oui, définitivement que ça l'a donné la possibilité de revoir un petit peu certains modèles même qu'on pensait établis, qui ne pouvaient pas changer. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer avec la COVID. Isabelle, si on veut en savoir un petit peu plus sur Coffrage Synergie, c'est où l'endroit le plus simple pour en savoir plus sur votre organisation? Peut-être même si vous avez des postes ouverts en ce moment.
Oui, mais le site web de Synergie, synergie.ca, notre Facebook, Instagram, LinkedIn d'entreprise, on essaie d'être présent sur les réseaux de la façon que les gens aient le mieux l'entendre, mais sinon, très simple. Mathieu, notre incroyable réceptionniste, va se faire un plaisir de vous accueillir si vous appelez simplement au bureau aussi. C'est quelqu'un qui va vous...
La bonne vieille méthode.
La bonne vieille méthode, j'ai toujours refusé d'avoir une boîte vocale à la réception. C'est l'ancienne réceptionniste qui parle. Ça prend un bon visage en avant qui est là pour bien représenter l'entreprise. Puis tu sais, du développement d'affaires, tu me posais la question si j'en faisais tantôt. Ben, on est 1500 en enfer. Puis quand on comprend à quel point c'est important d'avoir des ambassadeurs dans toute l'entreprise, et ça passe par la communication, l'information et l'onboarding des gens. Puis comme j'aime dire, je sais, moi, j'ai une politique porte ouverte chez nous. J'ai même pas de bureau, à vrai dire. Tu sais, si tu me demandes, c'est quoi mon quotidien? J'ai même pas de bureau. Moi, je me promène avec mon laptop, mon cellulaire, c'est notre ordinateur portatif maintenant, dans chacun des bureaux. Puis j'aime questionner, j'aime répondre aux questions, je suis extrêmement pédagogue. Puis il y a pas de secret chez Synergie. T'sais, on est là, on est transparent sur toutes les idées, tout ce qui se fait dans la société. Puis j'adore les questions qui sont out of the box d'un poste, d'un individu. Ça veut dire qu'il a envie d'en apprendre plus. Et cette soif-là, elle est tellement riche.
Intéressant. Ben Isabelle, ça a été vraiment fascinant comme entretien. Je pense que c'est tout à votre honneur d'avoir construit une organisation qui florissante, continue de pouvoir servir 1500 là, collaborateurs au moment où on se parle. C'est assez exceptionnel tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Puis, bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez le partager sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de superbes idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.